Bonjour et bienvenue. Alors, pour commencer, imaginez une scène. On a une dirigeante, vraiment au sommet de sa carrière.
Oui.
Son CV, c'est une liste impressionnante de réussites, de projets menés à bien, de défis surmontés, tout ça.
Le parcours parfait en apparence.
Exactement. Et pourtant, en réunion, alors qu'elle connaît les réponses, elle reste silencieuse, terrifiée à l'idée de prendre la parole. Quelque chose la paralyse. Ce paradoxe, bah, c'est un peu le point de départ de notre discussion aujourd'hui. On a entre les mains un cours très complet de Neelam Sharma, qui est vraiment conçu pour déconstruire ce problème, la confiance en soi. Notre mission, c'est de comprendre ce qui se passe dans la tête de cette dirigeante et surtout d'extraire les stratégies les plus efficaces pour l'aider, elle et nous tous.
D'accord.
On va donc utiliser son histoire comme fil conducteur pour explorer ce qu'est vraiment la confiance, comment la mesurer et puis comment la construire durablement.
Et c'est un excellent point de départ parce que ça met tout de suite le doigt sur une idée fausse qui est très très répandue.
Laquelle?
On a tendance à croire que la confiance, c'est une conséquence directe de la compétence. Or, cet exemple prouve que, ben non, ce n'est pas le cas.
Pas du tout même.
Le cours insiste beaucoup là-dessus. La confiance, ce n'est pas une qualité innée, un don du ciel. C'est une construction complexe. Elle est influencée par nos expériences, notre éducation, notre entourage.
D'accord.
Mais la bonne nouvelle, c'est que, comme toute construction, elle peut se renforcer. C'est un muscle qui s'entraîne, en fait.
Un muscle, j'aime bien l'image. Alors, pour commencer à l'entraîner, il faut comprendre son anatomie. Le cours la décompose en quatre éléments fondamentaux, quatre piliers.
C'est ça.
On a l'identité, l'estime de soi, les compétences et l'acceptation sociale. Ça peut sonner un peu comme une liste de contrôle, comme ça. Mais est-ce qu'il y en a un qui serait secrètement plus important que les autres? Le maillon faible habituel.
C'est la question clé. Et la réponse est fascinante. Objectivement, le pilier le plus solide de cette dirigeante, c'était les compétences. Elle les avait. Ça, c'était indiscutable.
Oui, bien sûr.
Mais le pilier qui s'effondrait, c'était l'estime de soi, c'est-à-dire la capacité à s'apprécier, à croire en sa propre valeur intrinsèque.
Ah oui.
On peut être la personne la plus compétente de la pièce, mais si au fond on ne croit pas mériter d'y être, les compétences deviennent invisibles. Même à ses propres yeux.
C'est donc ça le court-circuit, le pilier identité, savoir qui on est et ce qu'on vaut, était complètement déconnecté du pilier compétence, savoir ce qu'on fait.
Précisément. Et ce pilier de l'estime de soi est très fragile. Il est miné par des comportements très courants.
Comme quoi, par exemple?
Vouloir plaire à tout le monde, ruminer ses échecs, et surtout le grand poison, chercher constamment la validation des autres.
Le besoin d'approbation.
L'antidote, c'est de savoir poser des limites claires et de s'y tenir. De croire en sa valeur sans avoir besoin d'un tampon d'approbation à chaque étape.
D'accord. Et le troisième pilier, les compétences, comment ils s'articulent? J'imagine que beaucoup de gens ont peur de passer pour arrogance s'ils affichent trop de confiance dans leurs compétences. Où est la limite?
La distinction est cruciale. L'arrogance ou la fausse confiance a besoin d'éloges pour exister. Elle ne supporte pas la critique. La vraie confiance, paradoxalement, inclut la capacité de dire « Sur ce point, je ne sais pas, mais je peux apprendre.
Reconnaître ses lacunes,
»
donc.
Voilà. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la preuve qu'on a suffisamment confiance en ses capacités d'apprentissage pour ne pas avoir besoin de faire semblant.
D'accord, c'est beaucoup plus subtil. Et le dernier pilier, l'acceptation sociale. Ça me semble à la fois évident et un peu déstabilisant. Est-ce que ça veut dire que notre confiance dépend du bon vouloir des autres?
Disons qu'elle est influencée par notre sentiment d'appartenance. Nos relations, famille, amis, collègues sont un miroir.
Oui.
Quand ce miroir nous renvoie une image positive, un sentiment de soutien, de compréhension, notre sécurité intérieure grandit. À l'inverse, l'indifférence ou le rejet peuvent être dévastateurs.
C'est un équilibre alors?
C'est un équilibre. On ne doit pas dépendre de leur validation, mais leur soutien est un carburant indéniable.
Donc, pour revenir à notre dirigeante, le coaching a consisté à reconstruire ce pont qui était brisé entre ses compétences objectives et son estime de soi.
Exactement. Le travail n'a pas été de lui apprendre de nouvelles compétences, mais de la reconnecter à ses succès passés.
Ah ouais, juste ça.
Oui, de lui faire analyser ses réussites, non pas comme des coups de chance, mais comme le résultat logique de ses actions et de ses talents. C'est en refaisant ce lien qu'elle a commencé à se réapproprier sa propre valeur. Et le résultat était spectaculaire. Elle a retrouvé sa voix, sa perception par les autres a changé, et de nouvelles portes se sont ouvertes.
Ce qui prouve qu'un seul pilier peut vraiment entraîner les autres vers le haut. Mais alors, comment on fait son propre diagnostic? Si cette dirigeante avait voulu s'évaluer seule, par où est-ce qu'elle aurait commencé?
La première étape, c'est une réflexion honnête. et il y a un piège que le cours met bien en lumière. L'excès de modestie.
L'excès de modestie.
Oui. Beaucoup d'entre nous ont appris à ne pas se vanter, à minimiser leurs accomplissements. Le problème, c'est que si on se répète assez souvent, oh, c'était n'est rien.
On finit par le croire.
On finit par le croire. Notre dialogue interne devient notre réalité.
C'est un point très juste. On se programme soi-même à la dévalorisation. Alors, comment on inverse la tendance ?
Une technique très simple mais puissante, c'est de faire la liste de ses réussites, et pas seulement les promotions ou les diplômes.
D'accord.
Ça peut être d'avoir appris à jouer d'un instrument, surmonter une peur, aider un ami dans un moment difficile, maîtriser une recette compliquée.
Les petites victoires du quotidien.
Voilà. Ces petites victoires sont les preuves tangibles de notre capacité à agir sur le monde.
Et si notre propre jugement est biaisé, on peut se tourner vers l'extérieur.
C'est la deuxième méthode. Solliciter des avis. Demander à les personnes de confiance comment elles nous perçoivent. C'est un excellent moyen de repérer les décalages.
Ah oui, entre notre perception et la leur.
Exactement. On peut être persuadé d'être perçu comme timide, alors que les autres nous voient comme quelqu'un de réfléchi et à l'écoute. Cette prise de conscience peut être transformatrice.
Le cours propose aussi un outil plus structuré, l'analyse SWOT personnelle. Ça sonne un peu consulting d'entreprise, non ? Est-ce que c'est vraiment applicable à soi-même ?
C'est étonnamment efficace. SWOT, c'est un acronyme pour force, faiblesse, opportunité et menace.
D'accord.
L'exercice consiste à lister honnêtement quelles sont mes forces reconnues, par exemple la créativité, l'organisation, quelles sont mes faiblesses, la procrastination, la peur de parler en public.
Et ensuite ?
Ensuite, on regarde à l'extérieur. Quelles opportunités pourraient me permettre d'utiliser mes forces et quelles menaces pourraient être amplifiées par mes faiblesses ? Ça donne une cartographie très claire pour définir des objectifs réalistes et ciblés.
D'accord, donc on a la liste, les avis, la cartographie, et ensuite on s'attaque au plus dur, nos schémas de pensée, notre dialogue intérieur.
C'est le cœur du réacteur. Il faut apprendre à s'observer et à se poser les bonnes questions.
Du genre...
Est-ce que je cherche systématiquement l'approbation avant d'agir ? Est-ce que j'évite toute situation nouvelle par peur de l'échec ?
Et pour briser ces schémas ?
Il n'y a pas de secret. Il faut sortir de sa zone de confort. Mais pas en sautant d'une falaise, hein.
Non.
Le cours donne un exemple très parlant pour la timidité. N'essayez pas de faire un discours devant 200 personnes demain. Commencez par dire bonjour à une personne inconnue dans l'ascenseur.
Ah, la politique des petits pas.
C'est ça. La semaine d'après, posez-lui une question. Chaque petite réussite renforce le muscle de la confiance.
Ok, donc on a une meilleure idée de notre propre fonctionnement. Mais la théorie, c'est une chose. Le quotidien au bureau, c'en est une autre. C'est un vrai champ de mine pour la confiance, parfois.
C'est certain.
Comment on gère les attaques directes comme un chef qui fait de la micro-gestion ?
Ah, le micromanager. C'est un poison lent. Chaque question, chaque vérification, chaque intervention est un message subliminal qui dit « Je ne te fais pas confiance pour faire ton travail ».
C'est exactement ça.
La stratégie pour contrer ça est brillante. Le cours l'appelle la clarté neutre.
La clarté neutre, j'aime bien le terme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ne pas rentrer dans le conflit ?
Surtout pas. L'impulsion première, c'est de vouloir hurler « Laissez-moi travailler !» Mais ça ne marche jamais.
Non, j'imagine.
La clarté neutre, c'est de reprendre le contrôle en posant des questions factuelles et calmes.
Par exemple ?
Pour ce projet, quels sont les 3 indicateurs de succès les plus importants pour vous ? Ou bien, à quelle fréquence souhaitez-vous qu'on fasse un point ? Tous les jours à 17h ou un récapitulatif par email le vendredi ?
En fait, on anticipe.
On est hyper proactif et on clarifie les attentes. Du coup, on rend la micro-gestion superflue. On démontre sa compétence par l'action.
Ça me rappelle l'autre anecdote de Nilam Sharma sur ce client très expérimenté qui se retrouve avec un nouveau chef qui voulait valider chaque email.
C'est l'illustration parfaite. Au début, ce client a vu sa confiance et sa motivation s'effondrer. Il a commencé à douter de lui.
Oui.
Puis, il a appliqué cette stratégie. Il a commencé à anticiper les demandes de son manager, à envoyer des comptes rendus avant même qu'on les lui demande. Il a surcommuniqué de manière factuelle et professionnelle.
Et le manager a réagi comment ?
Petit à petit, il a compris qu'il avait affaire à quelqu'un de fiable, d'autonome, et il a lâché la pression. Le client a transformé une situation subie en une démonstration de sa propre maîtrise.
C'est très puissant. Un autre moment de stress intense, ce sont les évaluations de performance. Comment on aborde ça sans que la confiance en soi prenne un coup ?
En adoptant ce que le cours appelle une mentalité de croissance.
Une mentalité de croissance, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire voir les retours, même négatifs, non pas comme un jugement sur sa valeur en tant que personne, mais comme une information précieuse pour progresser.
Comme un GPS.
C'est un GPS qui nous dit où on est et comment aller là où on veut, Accepter la critique constructive, c'est une marque de confiance immense en sa propre capacité à s'améliorer.
Et face aux collègues difficiles, ceux qui sont constamment négatifs ou qui cherchent à rabaisser les autres?
C'est un autre type de défi. Là, les techniques sont l'empathie et la négociation. Essayer de comprendre leur point de vue sans excuser leur comportement peut parfois désamorcer le conflit.
Et si ça ne suffit pas?
Alors, le plus important est de savoir poser ses limites fermement. Ne pas se laisser entraîner dans leur spirale de négativité. Parfois, il faut simplement dire « Je comprends ton point de vue, mais je ne partage pas cet avis et je préfère qu'on se concentre sur les solutions. »
Tout ça, ce sont des stratégies de défense, en quelque sorte, pour parer les coups. Mais comment on passe à l'offensive? Comment on construit une confiance qui soit vraiment durable sur le long terme?
C'est la dernière partie du parcours. Et c'est essentiel, car la confiance n'est pas une destination, c'est un voyage.
D'accord.
La première stratégie à long terme, c'est de ne jamais cesser d'apprendre. Renforcer ses compétences en continu. Dans un monde qui bouge si vite, la compétence est une ancre.
Il faut donc être proactif.
Il faut être proactif. Identifier les compétences dont on aura besoin dans 2 ou 5 ans et planifier comment les acquérir. Chaque nouvelle corde à son arc renforce le sentiment de sécurité et d'adaptabilité.
La deuxième stratégie est plus intérieure. Cultiver la positivité envers soi-même et les autres. C'est le fameux dialogue intérieur dont on parlait.
Exactement. Le conseil du cours est simple mais profond. Parlez-vous comme vous parleriez à une amie que vous estimez. On est souvent notre critique le plus sévère.
C'est vrai.
Il faut consciemment remplacer les « je suis nul » par « j'ai fait une erreur, qu'est-ce que j'ai appris ?» Et ça passe aussi par le corps. Se tenir droite, regarder les gens dans les yeux, sourire. Notre posture influence notre état d'esprit et la perception que les autres ont de nous.
Et il y a une dernière stratégie qui me semble totalement contre-intuitive. Le cours dit que pour avoir confiance en soi, il faut savoir demander de l'aide. J'avoue que mon réflexe serait plutôt de cacher mes faiblesses pour ne pas avoir l'air incompétente.
C'est le paradoxe le plus intéressant. On nous apprend que demander de l'aide est un aveu de faiblesse.
Oui, exactement.
Le cours le présente à l'inverse. C'est une preuve de grande conscience de soi et de confiance. Ça montre qu'on connaît ses limites et qu'on fait suffisamment confiance à ses capacités pour savoir qu'on peut s'améliorer avec l'aide des autres.
Je n'y avais jamais pensé comme ça.
De plus, ça crée des liens, ça renforce l'esprit d'équipe et le succès qui en découle est collectif, ce qui est un formidable booster pour l'estime de soi de tout le groupe.
C'est une perspective qui change tout. On a donc fait un sacré chemin. On est parti de cette dirigeante paralysée par le doute et on a vu que sa confiance reposait sur 4 piliers, dont l'un, l'estime de soi, était défaillant.
C'est ça.
On a exploré des outils pour faire son propre diagnostic, puis des stratégies pour se défendre au quotidien contre la micro-gestion ou la critique. Et enfin, on a vu comment entretenir ce muscle sur le long terme par l'apprentissage, la bienveillance et l'entraide.
Ce qu'il faut vraiment retenir, je pense, c'est que la confiance en soi n'est pas une simple compétence professionnelle. C'est une clé de voûte de notre bien-être. Une confiance saine influence la qualité de nos relations personnelles, nos décisions en matière de santé, notre capacité à poursuivre nos passions. Elle irrigue absolument tous les aspects de notre vie. C'est bien plus qu'une question de carrière.
Et pour conclure, je voudrais laisser une question en suspens, une réflexion inspirée par tout ce qu'on vient de dire. On a beaucoup parlé du monde du travail, mais la vraie question est peut-être ailleurs. Si on met la carrière de côté un instant, quel est le domaine de notre vie, nos relations, nos passions, nos projets, qui serait le plus transformé par un gain de confiance? Et à quoi ressemblerait, très concrètement, ce changement.